dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Donc, c'était un engagement fondamental pour des valeurs. Et ils sont partis en Espagne sans se le dire. Ils se sont retrouvés dans le bateau. Le commandant Marc. Pourquoi il s'appelle le commandant Marc ? Parce que Marc est un compagnon de la guerre d'Espagne qui a été tué au combat quand il y était. En avril 37, le 1er bataillon de commune de Paris passe à la 14e et Aurel va participer à l'offensive vers Ségovie. Quelques jours plus tard, après la publication de son article, il tombait lors de la bataille de Cuesta de la Reina. Et il a été tout de suite dans les instances dirigeantes de la brigade parce que, puisqu'elles se sont structurées petit à petit, en fusionnant, en se séparant, et eux, ils ont été tous les deux dans la 14e. Alors, ils ont viré donc François. Ils lui ont enlevé ses fonctions et il l'avait, comme tu l'as lu, mis
portier.
Voilà. Ils lui ont fait descendre les étages.
Est-ce qu'il t'a raconté un petit peu ce qu'il faisait là-bas, son quotidien ?
Absolument pas. De même qu'il n'a pas raconté son parcours de résistant. Il pensait que la vie devait continuer sans ça. Je l'ai appris par ses compagnons. Et sur l'Espagne, la seule chose que j'ai envie qu'il ait raconté, c'est la rencontre avec ma mère. Parce que ça s'est passé pendant les combats de l'Ebre. Et actuellement, on fait toujours le parallèle avec la situation internationale, avec les jugements qu'on peut porter. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?
Des brigades internationales en Espagne à la résistance en France.
Trois vies contre le fascisme
avec Marie-Josée Vittori sur Dissonance.
Aujourd'hui, Dissonance vous amène sur les traces de trois frères au destin peu ordinaire.
Aurel, François et François-Antoine Vittori, celui qu'on appellera plus tard le commandant Marc.
Ils viennent de Corse, des hommes simples. Sur le continent, l'un est manutentionnaire, l'autre travaille dans le commerce, le troisième façonne le pain et les gâteaux.
Militants communistes, ils choisissent d'aller affronter le fascisme dès 1937, armes à la main, au sein des brigades internationales en Espagne.
Aurel a 33 ans lorsqu'il tombe au sud de Madrid. L'Espagne sera sa dernière terre.
François-Antoine, lui, y sera blessé et y rencontrera celle qui partagera sa vie.
Quant à François, organisateur des brigades pour le Comintern de Moscou et le Parti communiste français, il deviendra commissaire politique de la 14e brigade.
En 1939, les survivants reviennent en France. La guerre continue autrement.
François est un des organisateurs de la libération de la Corse. Il a 41 ans.
Son frère, le commandant Marc, à l'âge de 33 ans, prend la tête d'un important maquis FTPF en Aveyron, le maquis d'Ols, appelé aussi maquis Dominique Vincenti.
Leur histoire, faite de combats, de fidélité, de révolte et d'insoumission, nous est racontée par Marie-Josée Vittori.
Elle aussi appartient à cette lignée singulière, cette famille où l'engagement pour la liberté ne relève ni du discours ni du souvenir, mais est transmis comme un héritage profond, comme une manière d'habiter le monde.
On m'appelle Marie-Jo. En réalité, je suis Marie-Josée Vittori, Auger. Voilà, je suis née dans l'Aveyron pour des raisons liées à la résistance. Parce que mon père était corse, évidemment, qui avait été élevé dans son village, qui a fait ses études à Bastia. Et à Bastia, en tant qu'élève, il s'est engagé au Parti communiste. Donc il a appris la rébellion, il a appris la contestation. Et quand il est arrivé à Marseille pour travailler, puisque c'est pour ça qu'il avait quitté la Corse, il s'est engagé à nouveau au Parti communiste et c'est le début de toute son histoire.
Alors justement, tu as ton papa qui est ce grand résistant, on en parlera, qui a fait aussi les brigades internationales, mais tu as deux oncles aussi qui ont fait les brigades internationales. Qu'est-ce qui fait que... Tu lui as dit le nom de ton village en Corse ?
Non, je ne l'ai pas dit. Mon village... C'est un village emblématique en Corse parce que c'est Porri di Casinca, un tout petit village perdu dans le maquis, mais qui domine la mer et qui a eu une importance énorme pendant la guerre de 39-45. Mon grand-père, qui était instituteur, avait donc fait plusieurs villages en poste, comme tous les enseignants, et il a fini sa carrière d'instituteur à Porri. Et il est devenu, pendant 4 mandats, maire du village. Il était aussi engagé au Parti communiste, sans militer réellement, mais il défendait ses idées. C'était quand même assez particulier dans une île qui est conservatrice, qui est... Mais ça se passait très très bien, comme on dit dans les chansons, il ne se fâche pas parce que les gens en souffriraient. Donc ça se passait très bien. Ce village a eu une histoire particulière puisque dans la maison familiale, en mai 43, s'est tenue ce qu'on a appelé et qu'on appelle toujours la conférence de Porri. Elle a réuni 25 communistes venus de tout le département qui ont créé le comité de libération de la Corse, le Front National de Libération de la Corse. Ils se sont ensuite répartis les tâches dans toute la région. Et c'est comme ça qu'a été donné l'ordre d'insurrection pour la libération de la Corse, puisque la Corse a commencé en septembre 43.
43, un an et demi avant l'Aveyron et la France.
Et elle s'est libérée seule. La particularité de la Corse qui m'a toujours interpellée, c'est qu'il n'y a pas eu de conflit au niveau politique pour l'engagement. Ce sont les communistes qui ont créé ça, mais ensuite, ils ne se sont jamais mis en avant. C'est tout le monde qui, suivant les régions, Ajaccio a eu son identité, Sartène a eu son identité. Voilà. Alors, dans le village de Porri, le quatrième fils, dont on ne parle jamais, a créé et installé la grotte de la résistance dans laquelle ils ont dissimulé une imprimerie clandestine. Alors cette imprimerie avait été volée à Bastia par un Italien donc, qui était antifasciste, qui s'engageait. Elle a fait son voyage entre Bastia et différents villages, évidemment persécutée par les Italiens, et elle a fini dans une excavation qu'on appelle la grotte, dans laquelle mon oncle avait tout aménagé, et cet Italien est resté là pendant 3 mois, tout seul, et tous les documents, les tracts, le Patriote ont été édités et diffusés là. Alors, il est vrai que quand on y va, on se pose des questions tellement c'est isolé, mais c'est un village qui les a aidés pendant toute la période. Les femmes les nourrissaient, ils allaient récupérer les documents, ils les remontaient. Et il y a une vieille maison entre les deux, qui est en plein maquis, dans laquelle ils faisaient les réunions politiques.
Et alors, à ces réunions politiques, participaient ton père, certainement?
Mon père n'était pas là à ce moment-là, puisqu'il était emprisonné à Marseille. Aurel avait été tué. Et c'est François, celui qu'on appelle François, donc le colonel Rémy, lorsqu'il est rentré d'Espagne, il est rentré à Paris et il a profité de son ordre de mobilisation pour revenir en Corse.
Alors justement, Marie-Jo, pour que ça soit clair pour les auditeurs, est-ce qu'on peut se replonger dans les années 36-37, avant l'Espagne?
Ils travaillaient tous les deux à Marseille.
Qui ça, tous les deux?
Aurel, celui qui ensuite a été tué, et mon père, François. Alors, je prends l'exemple de mon père. Quand il est arrivé à Marseille, il était comptable. Et il a travaillé en tant que comptable, et il était payé de manière misérable. Donc, il s'est révolté, puisqu'il était dans ce combat. Il s'est révolté, et il est devenu pâtissier. Il a fait une formation de pâtissier, mais il était engagé au Parti communiste. Et son frère Aurel et lui n'étaient pas dans le même rayon.
Même cellule.
Et ils sont partis en Espagne sans se le dire. Ils se sont retrouvés dans le bateau. Mon père me l'a raconté ça toute sa vie.
Est-ce que ton père t'a raconté les raisons de son engagement? C'était quoi sa motivation?
C'était la révolte devant cette guerre qui se passait en Espagne. Et par rapport à leurs engagements politiques, pour eux, c'était normal. Et ils ont découvert l'arrivée de leur frère, qui est arrivé quand même 2 mois après, parce que lui, il était dans l'organisation. Donc, il faisait... Tu sais que les brigades internationales, elles ont été organisées par le Secours Rouge, oui, qui est devenu ensuite le Secours Populaire. François a été le premier secrétaire national de Secours Populaire.
Alors, quand on dit François, est-ce qu'on parle de ton papa ou de ton oncle?
On parle de mon oncle.
Comment on pourrait faire pour que ça soit clair?
Alors, mon père, je vais l'appeler le commandant Marc.
Voilà.
Puisque dans l'Aveyron, il est connu sous le nom de commandant Marc.
D'accord. Donc, son grand frère, François,
oui,
ton oncle, lui s'occupait du Secours Rouge qui a organisé,
voilà,
le départ des brigadistes en Espagne.
Il est arrivé après eux en Espagne et il a été tout de suite dans les instances dirigeantes de la brigade puisqu'elles se sont structurées petit à petit, en fusionnant, en se séparant. Et eux, ils ont été tous les deux dans la 14e.
Tous les deux, c'est-à-dire le commandant Marc, ton,
voilà,
papa.
Et mon père a eu comme fonction, il était commissaire d'intendance.
D'accord.
Voilà, d'une unité de la 14e, donc qui était la 25e. Voilà.
Est-ce qu'il t'a raconté un petit peu ce qu'il faisait là-bas, son quotidien?
Absolument pas. De même qu'il n'a pas raconté son parcours de résistant. Il pensait que la vie devait continuer sans ça. Je l'ai appris par ses compagnons. Et sur l'Espagne, la seule chose, j'ai envie qu'il ait raconté, c'est la rencontre avec ma mère. Parce que ça s'est passé pendant les combats de l'Ebre. Et l'Ebre était en crue. Et il vivait des situations où ils ne pouvaient pas circuler ni rien. Et ils s'étaient réfugiés un jour, bon, comme ça devait se passer dans les campagnes, ils s'étaient réfugiés chez un facteur qui habitait là. Et ma mère était réfugiée là aussi. Voilà. Et il parlait avec un espagnol très incertain. Et puis il y a une petite voix qui lui a répondu en français. Ah. Et c'était Maria Hervás. Alors, elle était fille d'espagnol qui avait quitté l'Espagne fasciste et qui était à Paris. Et qui, son père a voulu rentrer en Espagne en 36 pour retrouver la République et la défendre. Alors, elle avait un frère qui, lui, n'a pas voulu venir, qui s'est engagé dans l'armée. Et elle, elle avait 18 ans, elle l'a suivi. Voilà.
Et ils ont eu un enfant en Espagne.
Alors, ils ont eu un enfant, ils se sont mariés. Hein, et alors, j'ai tout, hein, j'ai le certificat de mariage, il n'y a pas de problème. Ils se sont mariés, ils ont eu un enfant qui est né à Barcelone. Et ça, il en parlait, parce qu'il me disait... On n'avait absolument rien pour cet enfant. On lui avait fait un berceau sur deux chaises et dans une boîte, il était posé sur les deux chaises. Et ma mère a quitté l'Espagne quand mon frère avait 15 jours. D'après ce que nous avons lu sur les brigades et tout, ça correspondrait au premier départ des brigades d'Espagne. Et elle a rejoint Marseille, qu'elle connaissait absolument pas. Et mon père est rentré, donc après la fin des brigades, il est rentré en janvier 39.
Des brigades internationales en Espagne à la résistance en France.
Trois vies contre le fascisme.
Avec Marie-Josée Vittori sur Dissonance.
Son frère Aurel... travaillait donc à Marseille, je ne sais plus comment il était, quel était exactement, quel était son... il était manutentionnaire à la gare. Il était adhérent, secrétaire de cellule, membre du comité de rayon, et il était responsable de l'organisation de différents groupes. Voilà, donc il habitait rue Colbert, chez la même tante. Et ils se sont retrouvés en Espagne, dans le bateau, puisque je sais comment... Ça, par contre, il en a parlé. Ils avaient éclaté de rire, ils n'en avaient jamais parlé entre eux. Ça, c'est le propre des militants quand ils tiennent le secret sur... Et voilà. Donc...
Ils ne combattaient pas dans la même unité ou dans le même régiment?
Ils ont été engagés, voilà.
J'ai lu qu'il était mort du côté d'Alain Rueff. Il était mort, il avait été tué lors d'une bataille.
À Costa da Reina.
Voilà,
côté d'Aranjuez. Oui, à côté d'Aranjuez. Oui, c'est ça. C'est ça. Il a publié un article donc, qui s'appelle « La mort ne m'effrayait pas » dans Le Soldat de la République du 14 octobre 1937.
D'accord. C'est un texte où il parlait de ses motivations, de son engagement.
Tout à fait.
Et tu pourrais me le lire ?
Je peux. Lorsque l'insurrection des généraux fascistes éclata le 18 juillet, je croyais, comme la plupart des travailleurs, qu'ils seraient écrasés rapidement. Notre espoir fut déçu à cause de l'intervention des pays fascistes qui soutenaient la rébellion. Déjà, dans notre entreprise, nous donnions volontairement une heure de notre salaire au profit de l'Espagne, tarif de notre syndicat. Je travaillais alors comme manutentionnaire de gare. J'étais membre du Parti communiste, responsable de l'organisation des pionniers au comité du rayon du Vieux-Marseille. Malgré cette tâche, je résolus de partir pour l'Espagne. Je me fis inscrire. J'avais au préalable bien réfléchi. La mort éventuelle ne m'effrayait pas. Je n'étais pas mariée, j'avais mon père, mes frères, mes sœurs. Ils ne le sauraient que lorsque je serai en Espagne. Une dizaine de jeunes communistes, dont mon frère plus jeune que moi, donc là il s'agit de François, mon père, le commandant Marc, et nous formâmes un petit groupe de 12. Le 24 octobre, à 10h du matin, nous embarquâmes sur un cargo espagnol que des dockers chargés bénévolement, dirigés par le secrétaire de leur syndicat, le camarade Gagnère. Aussitôt, je me rendus compte de ce que devait être cette armée dont je faisais maintenant partie. Pour la première fois, on allait combattre côte à côte des hommes qui ne se comprenaient pas, mais qui avaient le même idéal et le même signe de ralliement, front rouge. Le 26, Vers 15 heures, c'est l'arrivée à Valence. Le bateau a hissé le grand pavois. La population de Valence s'est portée vers le port. L'enthousiasme est indescriptible. Nous débarquons et l'on nous conduit entre deux haies humaines jusqu'à une caserne où un repas froid nous fut servi. Voilà. Alors, il est promu lieutenant le 10 avril 37. En avril 37, le 1er bataillon de commune de Paris passe à la 14e et Aurel va participer à l'offensive vers Ségovie, puis au combat sur le front de Santa Maria de la Alameda. Quelques jours plus tard, après la publication de son article, il tombait lors de la bataille de Cuesta de la Reina.
J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que ce n'était pas une lutte ni un engagement patriotique, c'était un engagement antifasciste.
Oui, sans condition.
Sans condition.
Et vraiment, tu vois, quand il dit que... Parce qu'il l'a écrit, ça. Alors, il faut dire que mon grand-père était très rigoureux du point de vue
le de maire
l'écriture
de
et tout. Ouais. Donc, quand on voit leurs écrits, moi, je vois les écrits du commandant Marx, c'est ahurissant. Hein, et même quand il corrige, comment il est pointu par rapport au vocabulaire, et ça, il l'a quand même écrit en 37, ouais. Et c'est dans le journal de la République, du, je pense que c'est celui que... Non, ça c'est la 14e. Je ne sais pas si je vais apporter le journal de la République, le soldat de la République. Exactement. Voilà. Donc, c'était un engagement fondamental pour des valeurs. Lui, quand il dit, toi, quand tu dis comment ça se fait qu'ils n'allaient pas parler, c'était un choix de sa part. Mmh. Il dit, ils ne le sauront pas.
C'est... Pourtant, il y a plein de gens qui se feraient une fierté de dire, mais j'ai été brigadiste, j'ai été en Espagne. Eux, non.
Ah non, eux, c'est pas ça. Hein. Eux, c'est vraiment l'engagement jusqu'au bout, quoi.
Et son corps a été rapatrié ou il est enterré en Espagne ?
Son corps n'a pas été rapatrié. Son corps a été probablement inhumé n'importe comment, comme c'était fait à l'époque. Alors, je suis au courant de deux choses. D'abord, j'ai vu un jour, sur une émission d'Antenne 2, une émission, c'était donc pour l'anniversaire de la création des brigades, c'était en 2006, ils ont fait un gros plan sur un mémorial en Espagne, et le gros plan a fait le gros plan sur Aurel Vittori, commandant. Donc, c'est une image qui a circulé dans la famille. On m'a envoyé le lien pour regarder, et je n'ai jamais trouvé, j'ai même demandé au consul d'Espagne, je n'ai jamais trouvé l'endroit de ce mémorial. Ouais. Et c'est consacré aux brigades. Le deuxième point, c'est que les anciens des brigades internationales, en 79, avec Roltangui, etc., on fait un voyage en Espagne sur le chemin des brigades. Alors, j'ai toutes les photos de ce moment-là. Et lorsque mon père est rentré, il était dans la révolte absolue parce qu'il était allé, donc ça prouve que lui le savait, il était allé à l'endroit où avaient été inhumés les combattants et il y avait un garage qui était construit dessus. Alors, pour qu'on ne l'oublie pas, je lui ai fait une plaque de ma petite main qui est dans le cimetière familial en Corse, avec la photo qu'on a tous, où il porte la fameuse étoile rouge. Voilà.
Des brigades internationales en Espagne à la résistance en France.
Trois vies contre le fascisme.
Avec Marie-Josée Vittori sur Dissonance.
Et François, est-ce qu'il est parti en même temps que Aurel et que le commandant Marc pour se rendre en Espagne ?
Non, il est parti après parce qu'il était, comme je te le disais, il était en Union soviétique pour finaliser l'organisation. Donc il est arrivé après, parce que l'organisation, elle ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Donc ça avait été créé en Union soviétique, et c'est pour ça qu'il est arrivé après.
D'accord, donc...
Il les a rejoints. Alors je ne sais plus, la date, elle doit être là. Il avait une histoire politique très forte, puisque bon, il était employé des PTT, il était perpétuellement dans la contestation, dans la révolte. Donc il avait rejoint, lui, le Parti communiste en 1920.
Oui,
et,
tout début. Oui,
il est affecté au Maroc et ensuite il est affecté à Madagascar. Et à Madagascar, il participe au mouvement pour la libération donc, du colonialisme. Et avec son compagnon, là je ne sais plus comment il s'appelait, il est interné, il est jugé, et il est interné, il fait 3 ans de prison à Madagascar. Il y a d'ailleurs une rue François Vittori à Tananarive. Voilà, donc il est rentré ensuite, il est toujours, ouais. Quand il est rentré en France, il a été encore emprisonné un petit peu, puis oui, et ensuite il s'est engagé donc, dans les brigades, et c'est quand il y a eu, en 40, quand il y a eu les premières installations, si tu veux, de la guerre en France, oui. Qu'il a profité des ordres de mobilisation pour entrer en Corse.
Et il s'est installé dans la résistance.
Et il s'est installé dans la maison familiale, ouais. Donc de mon grand-père, dans laquelle a eu lieu la fameuse réunion dont D'accord. je parle, la conférence ouais. de Port. Et ensuite, il avait loué une petite maison à côté, puisque sa femme l'avait rejoint, etc. Et c'est de là qu'il a organisé toute la résistance en Corse.
François était déjà au comité central du Parti communiste ?
Oui, il était membre du comité central. Et à la fin de la guerre, hors comité central, il a été un des 3 préfets de la Corse.
Voilà.
C'est lui aussi donc, qui a créé la SER, c'était ouais. l'AVER à l'époque.
L'association des volontaires en Espagne.
Des volontaires de l'Espagne républicaine, oui.
D'accord. Et pour oui.
Il appartient au conseil de préfecture d'Ajaccio avec Maurice Tchour, Arthur Jovione, Maillot et Césari. Et donc, il était le secrétaire du Front National.
C'est la raison
pour laquelle,
rappelle-nous,
de la Libération. Oui. J'ajoute toujours ouais. Libération parce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais c'est la raison aussi pour laquelle De Gaulle est allé en Corse après la Libération, parce qu'ils avaient très peur de la prédominance du Parti communiste. Et voilà, et j'ai même trouvé dans les archives une photo où mon oncle est juste derrière De Gaulle. ça faisait rire dans la famille, parce que vraiment, ils avaient un tel engagement, si tu veux, sincère et pur, que c'était pas du tout cette prédominance qui leur importait.
Voilà.
Vraiment, et ça n'a jamais été... Ils sont restés ce qu'ils étaient, ils ont continué leur engagement, c'est très fort.
Et ce François Vittori, colonel Rémy, a été viré du PC en 1950.
Ah oui, dans les années 50, c'est Charles Tillon, donc, qui était le chef français des FTP, francs-tireurs et partisans français, qui raconte très bien ce procès dans son livre « Enchanté rouge ». Et ils racontent tout de quoi on les a accusés. Alors, ils ont viré donc François. Ils lui ont enlevé ses fonctions et il l'avait, comme tu l'as lu, mis
portier.
Voilà. C'est ce qu'il m'avait fait dire par Léo Miguel, qui est le dernier des résistants. Il est mort il y a 2 ans. Il m'avait dit, ils lui ont fait descendre les étages. Et alors, moi, j'avais ri parce que je venais de lire quelle était cette réalité.
Et comment tu expliques ça, que le PC ait fait descendre les étages à des gens comme Tillon, comme ton oncle, qui
Guinguin.
Sont battus, Guinguin.
Mais ils ont réglé des problèmes énormes en fin de guerre par rapport à leur attitude à eux pendant la guerre. Donc tout ce qui les dérangeait...
C'était les vrais combattants.
Oui, et ensuite, c'était des gens, comme on le remarquait tout à l'heure... qui n'étaient pas dans les compromissions. Et quand tout ce qui s'est passé pour le Parti communiste, Staline et tout, ils ne l'approuvaient pas.
D'accord.
Et donc, par rapport à tout ça, ils étaient douteux.
D'accord. Ils l'ont payé.
Ils l'ont payé.
Ton papa aussi, c'est lui. Ton papa a décidé de quitter le PC.
Mon père?
Oui.
Non, il a été exclu ici.
Ah, il a été exclu
ici.
À Dinou.
Oui.
Mais
oui.
Plus tard, c'était suite.
Oh
à...
oui, oui, c'était quand on était ici. Et je me rappelle quand ils m'ont demandé s'ils pouvaient mettre le drapeau aux obsèques. J'ai dit, vous ne tracassez pas, il est mort communiste et il le restera. Ça n'avait rien à voir.
Et tu étais là le soir où il est rentré de la réunion de cellule et oui. Où le lendemain, il t'a dit, j'ai été viré?
Oui.
Comment tu l'as vécu, ça?
Ben, pour moi, tout était une interrogation.
Ah ouais, parce que quand même.
Je découvrais les événements comme ça. Je me rappelle, il faisait très très froid quand on attendait qu'il rentre avec ma mère devant la cuisinière. Bon, t'as dû connaître des choses comme ça. Et il racontait toujours quelque chose. Même des copains qu'il, je vais dire un mot un peu fort, mais qu'il insultait sur son engagement. Tu vois, des choses comme ça. Donc, il l'a pris comme... J'ai été interrogée aussi par l'historienne, la Hélène Chaubin. Je lui ai dit, je peux pas vous donner la raison. Je l'ai lu dans les écrits de M. Martin, tu sais, qui était le directeur. Là, j'ai eu des insomnies pendant un mois, hein. Parce que lui, il a raconté le détail. C'est très dur. Bon, mais c'est comme ça. Et eux, dans la pureté de leur engagement, ben, ils le prenaient comme ça. Moi, j'ai vu François, mon oncle, donc, il a milité toute sa vie. Toute sa vie.
Ouais. C'était une raison de vivre et ses anciens camarades l'ont rejeté.
Tu vois, c'est une réponse que je fais souvent à la Maison de la Résistance quand on reçoit des jeunes qui pose la question, mais qu'est-ce que je ferais, moi? Et je lui dis, tu ne peux pas répondre. Très souvent, ce sont les événements qui décident à notre place et qui font que tu vas dans une chose ou dans l'autre. Tandis qu'eux, ils avaient un engagement politique et c'était leur trace.
Des brigades internationales en Espagne à la résistance en France.
Trois vies contre le fascisme.
Avec Marie-Josée Vittori sur Dissonance.
C'est incroyable cette destinée de ces trois frères et notamment de ces deux qui ont survécu, cet engagement politique qui perdure dans le temps. Alors justement, on va évoquer le rôle de ton papa, parce qu'une fois revenu en France, il n'a pas fini de se battre contre le fascisme.
Non, il n'a pas fini de se battre contre le fascisme. Il travaillait à ce moment-là, puisqu'il fallait travailler, hein, il n'était plus pâtissier, il travaillait à l'Arsenal de Toulon, n'est-ce pas? Et il a été arrêté pour des menées communistes, alors que le Parti communiste venait d'être interdit. Il a été arrêté en février 40. On était quand même loin de l'appel du général de Gaulle et tout. Il a été arrêté pour des menées communiste et des menées antifascistes. Il a été jugé en juin et condamné à 4 ans de prison. Sauf que, dans ce jugement, ils ont fait une erreur sur le nom. Ah. Ils l'ont jugé sous le nom d'Aurel, qui avait été tué à Cuesta de Reina. Et ma mère, qui était une petite dame donc de 20 ans, elle est allée trouver le tribunal et elle leur a demandé qu'ils veuillent bien corriger, qu'ils refassent un jugement. Alors, en guise de jugement, m'a-t-elle raconté, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, ils ont pris un crayon, ils ont changé le nom, et ils lui ont dit, voilà madame, c'est réparé, c'est bien votre mari qui est jugé. Mais nous avons un conseil à vous donner. Trouvez-vous un autre mari, parce que vous ne le reverrez pas. Donc, elle a été porteuse de ça. Et dès que mon père a été officiellement jugé, à ce moment-là, il était à la prison à Marseille. Puisque, tu sais, le Fort Saint-Nicolas, c'était une prison pour les politiques, tout ça. Il l'a mise à l'abri, ma mère, en Corse. Elle est partie avec ce petit garçon. Donc, tu vois, il avait 2 ans, puisqu'il est né en 38. Elle est partie en Corse. Elle a été accueillie par mon grand-père et ma tante. Et pas très bien accueillie par la population du fait qu'elle avait une origine spagnola. Il l'appelait Spagnola. Et un jour, mon grand-père... Tout ça, ce sont les propos de ma mère, hein. Et un jour, mon grand-père a réuni tout le monde. Dans le village. Et il a dit, ça suffit. C'est ma belle-fille, c'est la maman de mon petit-fils. Elle s'appelle Marie. Et elle est devenue Marie pour tout le monde. Et elle s'est engagée dans la résistance sans le savoir. Parce que comme toutes les femmes, elle n'a rien fait. Elle portait tous les plis. Elle a traversé toute la Corse avec donc la femme de François, de l'autre, avec Berthe. Elles ont été amies toute leur vie, jusqu'à leur dernier souffle. Et donc, elles portaient les plis, elles allaient. Et à la libération de la Corse, donc en septembre 43, donc ça a été octobre, puisqu'il y a eu encore des bombardements, elle est partie à Ajaccio, toujours avec son gamin, et elle faisait secrétaire du journal communiste à Ajaccio.
D'accord.
Elle tapait à la machine. Et puis, en décembre 44, séparée depuis donc 5 ans de son mari, elle a voulu partir le rejoindre au front. Il était parti à ce moment-là dans les Vosges.
Mais auparavant, le commandant Marc, lui, une fois qu'il a mis son épouse sur le bateau, il était encore à Toulon, il vient vers l'Aveyron. Non, il va en prison, c'est ça, il était condamné à la prison.
Alors, il a été condamné à la prison, et comme tous les politiques faisaient de la résistance en prison, on les déplaçait en permanence. Donc lui, il a été à Marseille, il a été à Nîmes, il a été à Nice, il est revenu à Marseille, et de Nice, en août 43, on l'a déplacé, en juin, on l'a déplacé à Villefranche de Rouergue.
En Aveyron.
En Aveyron. Évidemment, il ne savait même pas où était l'Aveyron. J'ai fait un document là sur la prison de Villefranche, dont les internés politiques, ils venaient de partout en France. Ils venaient de Bergerac, il y avait Louis Audru, ils venaient de partout. Et ils ont organisé une forme de rébellion et de résistance qui empoisonnait la vie. Donc, ils empêchaient les surveillants de circuler, ils faisaient un tas de choses. Le 14 juillet, ils ont organisé une fête nationale avec les résistants de l'extérieur. Ils avaient mis des drapeaux, ils chantaient la Marseillaise. Bon, en août 43, mon père avait appris. Alors, je vais te dire sous quelle forme il l'avait dit un jour. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est quand on apprend qu'on est condamné à mort. Et moi, je me disais, mais il n'a jamais été condamné à mort. Mais il avait appris par les surveillants, etc., qu'il allait être déporté. Donc, au camp de Saint-Sulpice, il est déporté en Allemagne. Et on lui avait dit qu'on le libérait prématurément. Donc lui, il s'est libéré encore plus prématurément. Il a demandé à sortir exceptionnellement pour aller chez le coiffeur. Quand tu le connais, effectivement, ça devait être très important. Et il n'est pas rentré. Mais tout ça avec l'aide de la résistance qui se créait à Villefranche. Et il est allé se cacher dans une ferme à Saint-Salvadoux. Le lendemain, grosse descente à la prison. Et ils sont venus le chercher pour l'emmener à Saint-Sulpice. Et il n'était pas là.
Il n'était pas là.
Donc, ça, c'est sa sortie de prison. Il avait promis de libérer ses copains. Donc, ils ont programmé une attaque de la prison qui a échoué, parce qu'un des leurs a marché sur un fil électrique, ça a fait un courjus. Bon, voilà. Et puis, ils ont organisé partout sur la région de Villefranche, ils ont cherché un lieu pour créer le maquis. Alors avec un instituteur qui avait été déplacé des Pyrénées-Orientales, donc Marty qui était là, et Delcan qui lui était le responsable FTP régional qui est venu, et à tous les trois, ils ont cherché un lieu pour créer un maquis. Et ils ont été particulièrement bien accueillis par le maire donc d'Ambérac, qui les a accueillis et tout, et c'est là qu'ils ont créé le maquis d'Ols. Nous avons fait l'année dernière une manifestation particulière à Camboulan, qui sont les premiers lieux du maquis d'Ols, parce que comme c'était un maquis FTP, il était très structuré. Il y avait les commandants, bon, enfin, ça ne s'est pas structuré en février quand ils l'ont créé. Hein. Ils l'ont créé en février 1944. Leur première action, alors qu'ils n'étaient pas finalisés, ils sont allés aider les maquisards du Lot quand il y a eu les Allemands sur le pont de Cajar, de Salvairac-Cajac. Voilà, ils sont allés les aider. Là, ça a été la première action. Après, ils sont revenus. Il a été étoffé par les prisonniers de la... Pas les prisonniers, pardon. Il y a eu les prisonniers, oui, de la prison de Gaillac. Quand ils sont sortis, ils sont venus là. Et il y a eu aussi un tout petit maquis du sud d'Aveyron, le maquis des Lacs, qui, quand ils ont fermé, ils sont venus rejoindre le maquis d'Olst. Et j'ai trouvé un témoignage d'un d'eux qui raconte de manière... on va l'analyser comme on veut, mais enfin, c'est émouvant. Ils racontent comment ils sont arrivés à la gare donc de Saint-Pierre-de-Coirac et qu'il y a un monsieur très sombre et silencieux,
ton papa.
Je ne sais pas, qui est venu les chercher, qui a été mutique tout le voyage et ils ont cru qu'il s'était fait avoir. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont crevé de trouille tout le voyage et lorsqu'ils sont arrivés au camp, il y avait les paysans qui leur avaient préparé de la soupe et ils ont compris. Et là, après, il y avait une ligne où ils disaient on ne savait pas l'homme qu'on allait découvrir par la suite.
Petit à petit.
Voilà, donc ça c'était. Et ensuite, le dernier, je veux dire, le dernier mouvement qui a étoffé le maquis, c'est le 6 juin 1944, la sortie des derniers prisonniers de la prison de Villefranche. Donc tous ses compagnons sont sortis le soir, la nuit du 6 juin, deux par deux. Ils sont allés se cacher au-dessus de Villefranche, dans ce qu'on appelle le calvaire, et le lendemain, ils ont rejoint le maquis d'Olst.
Maquis d'Olst, qui était donc un maquis franc-tireur partisan français, oui. Mais qui a porté un autre nom après, par la suite, tu m'as
voilà.
dit.
Voilà, il a porté un autre nom. Donc, c'était le jour du 1er mai, donc 44. Tu vois, les autres n'étaient pas encore arrivés. Ils avaient fait un repas un peu informel là, chez des paysans. Et le commandant Marc s'est levé et il leur a dit, à partir de maintenant, le maquis s'appellera le maquis Dominique Vincetti. C'est un maquisard qui a été tué à Casta au mois d'août. En Corse, oui. Parce que lorsqu'il est rentré, Dominique, il s'est fait soigner et puis après, il s'est engagé dans la résistance, Dominique Vincetti. Mmh. Et il a participé au débarquement donc, du sous-marin le Casabianca, là-haut, dans le désert des Sagriates, le 19 août, il s'est fait exécuter. Il y a un poème qui dit « Si tu passes par là, dans ce maquis sauvage, prends un peu de ton temps. Un homme est tombé là, il avait 27 ans. Et il y avait sur le bord du chemin une petite stèle pour la fin d'un destin et pour qu'on se souvienne. C'est sa cousine qui a écrit ce poème et qui est devenue une chanson.
Si tu passes par là, par cet endroit sauvage, au lieu nommé Casta, désert des Agriates, si tu passes par là, prends un peu de ton temps. Un homme est tombé là, il avait 27 ans. Sur le bord du chemin, une petite stèle pour la fin d'un destin. Pour qu'on se rappelle, maison abandonnée, derrière les chênes, sa vie s'est arrêtée, un matin du mois d'août. Si tu passes par là, toi touriste en voyage, ou berger qui t'en va, vers d'autres pâturages. Et tu passes par là, à l'aube ou au couchant, quelques roses fanées rêve encore du printemps. Le ciel et le maquis étaient remplis d'odeur. Quatre coups de fusil lui ont trouvé le cœur. Quatre coups de fusil déchirant le silence, et son sang a rougi la pierre étincelante. Si tu passes par là, sous la lumière immense, au lieu nommé Caste, désert de roches blanches, si tu passes par là, la nature est si belle, mais la mort, quelquefois, attaque en plein soleil. Il y a dans l'air vibrant un souffle de promesse. Si tu prends le temps, tu l'entendras peut-être. C'est là qu'il est tombé, Domenico Inchep, morto be liberato.
Au mois de juillet 1944, par les instances départementales, le maquis d'Ols, Dominique Vincetti, a été nommé 1er bataillon de l'Aveyron, avec comme commandant le commandant Marc. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle le commandant Marc ? Parce que Marc est un compagnon de la guerre d'Espagne qui a été tué au combat quand il y était.
Une façon de lui rendre hommage.
Voilà, et ça a été son dernier pseudo, parce qu'il a eu différents pseudos. Alors c'est très curieux, parce qu'ils sont tous liés à la résistance. Son premier, c'est Novella, et c'est un petit jeune, c'est le papa de mon ami d'enfance, qui avait 15 ans, et il leur portait les plis, il se cachait dans le maquis pendant la résistance corse. Alors tu vois, tout est lié, mais il est devenu le commandant Marc. Donc ils se sont engagés, leur première action donc, c'est l'affaire de Cajar qu'on a appelée quand ils ont tenu le pont. Ensuite il y a eu les combats de gel qui ont été énormes, donc c'est les 24 et 25 juillet. Ils ont été avisés de la traversée d'une colonne allemande qui était une colonne particulière, elle s'appelait la colonne Wild, et elle était destinée, alors c'est leur terme, à nettoyer les villages et effrayer les populations. Donc quand mon père a été avisé de cette colonne, de l'arrivée de la colonne, les résistants du Lot avaient fait sauter le pont de la Madeleine pour que les Allemands ne puissent pas passer par le pont. Or, les Allemands ont reconstruit le pont succinctement, et ils sont passés avec des blindés. Et eux, ils attendaient des gens à pied. Donc, il y a eu 8 morts un jour, 7 morts le deuxième jour. Ça a été un drame. Ça, je peux dire que mon père, c'est le drame de cette période.
Il en a parlé ?
Ah oui. Et il voulait même, en tant que Corse, ça semble un peu bizarre, mais il voulait même être enterré là. Si je pouvais choisir, il disait.
Avec ses copains d'armes.
Hein. Avec ses copains d'armes. Et puis, la façon dont ça s'était passé. Parce qu'ils avaient demandé de l'aide à des maquis voisins qui leur avaient refusé parce qu'on n'aide pas les FTP. Enfin, c'était très compliqué. Ensuite, au mois de. Le 14 juillet, ils avaient déjà, puisque ça c'était avant Gel, ils avaient participé à la grève insurrectionnelle des mineurs à Carmaux. Et ensuite, la libération de Carmaux. Alors là aussi, ils ont eu des tués. Quand tu vois toutes les cérémonies qui avaient lieu au Garric, à Blaye, tout ça, il y a toujours le commandant Marc, le commandant Curie. Moi, j'ai plein de photos. Quand j'étais gosse, il m'a mené au Garric. chez des gens, et il a fallu que je m'intéresse à l'histoire pour comprendre que c'était toujours lié à ça. Ensuite, ils ont participé, au mois d'août, à la libération d'Albi. Et François Testas, il était imprégné de cette libération d'Albi parce qu'il se rappelait, je vais te le dire comme il me le racontait, il se rappelait que lorsqu'ils avaient défilé, les gens étaient aux fenêtres et ils les applaudissaient parce que eux chantaient la jeune garde. Prends garde à la jeune garde.
On la mettra aussi.
Et on la mettra aussi.
Comment on vit quand on est une jeune adolescente avec un papa? On se dit c'est un héros, je côtoie un héros,
non.
Ou alors...
Non.
Dis-moi, ça m'intéresse, ça.
Comment le verbaliser? Je découvrais toute l'histoire et son impact, si tu veux, au travers des gens qu'il fréquentait. Il a fréquenté toute sa vie les compagnons du maquis d'Olse. Moi, je l'ai découvert... Après, dans les conversations, par exemple, j'ai milité en mai 68. Et si tu veux, ils discutaient de l'engagement, en général, avec, par exemple, avec Raoul Maisonnès, qui était ici. Et Raoul le calmait, parce qu'il lui disait, mais laisse-la faire. C'est pas parce qu'elle appartient pas à un parti.
Oui.
Non, mais tu vois, je te dis, je crois, hein, peut-être qu'un jour j'aurai des révélations, mais je découvrais à travers les conversations, à travers les gens qu'il a fréquentés.
Des brigades internationales en Espagne à la résistance en France.
Trois vies contre le fascisme.
Avec Marie-Josée Vittori sur Dissonance.
Alors la transmission, Marie-Jo, puisque ton papa, il a monté une section de l'ANACRE, Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance, c'est ça? Ici, à Aubin?
Ici, oui. Et non, toi, dans l'Aveyron.
Dans l'Aveyron, carrément.
Ah oui, il n'y en avait pas.
Et toi, tu es maintenant présidente de l'ANACRE Aveyron.
C'est presque les événements qui ont décidé à ma place.
Tu n'as pas des fois l'impression, quand tu parles au nom de l'ANACRE, d'avoir ton papa à côté, ton oncle, mais les deux oncles, parce que c'est incroyable.
Ils sont toujours là.
Ils sont toujours là. Est-ce que tout ça, tu le transmets à tes enfants,
oui.
À tes petits-enfants?
Oui.
Oui, tu penses que c'est important?
Oui, je pense que c'est important. Dans l'Aveyron... J'ai amené mes petites filles sur le lieu de gel. Je leur ai expliqué ce que c'était. J'entretiens cette histoire. Lorsque nous avons fait la cérémonie en Corse en 2023, pour le 80e anniversaire, puisque c'était un an avant la France, j'ai fait lire à ma petite fille, qui était élève de 4e à l'époque, je lui ai fait lire le manifeste patriotique des femmes de Porre. Et je l'ai fait lire à la cérémonie à ma petite fille et à sa cousine, donc deux petites descendantes de François. Et c'était sur le vécu des femmes dans la souffrance de l'éloignement, de la peur et tout. Donc tu vois ce qu'elles avaient ressenti. Quelques mois après, ma petite fille, qui donc cette fois a été en troisième, elle s'est inscrite seule, volontaire, au concours de la résistance. Et elle a eu le premier prix départemental. Et tu vois, quand je trouve quelque chose sur mon père et que je lui demande si elle veut le lire, hein, elle lit.
C'est une fierté pour elle aussi d'avoir...
Probablement.
Hein. Et quand tu reçois des jeunes, des adolescents, des lycées ici, à la Maison de la Résistance départementale qui se trouve à Aubin et où nous enregistrons, tu les incites à s'engager d'être vigilant sur l'avenir. Sur
toujours. Et actuellement, on fait toujours le parallèle avec la situation internationale, avec ce que, les jugements qu'on peut porter. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Laurette Latour, qui était institutrice sur le Cossedolce, elle était institutrice à Ambérac, elle posait cette question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et le seul qui lui a répondu un mot, c'est un jour, chez le maire, M. Soléry, elle a rencontré le commandant Marc, qui allait régulièrement chez le maire, et il a eu un mot, « venez ». Personne ne l'avait voulu jusqu'à maintenant, parce que c'était une femme, et qu'il valait mieux qu'elle reste à la maison, n'est-ce pas? Et ce « venez » l'a fait devenir agent de liaison, l'a fait devenir... Et elle a vécu des choses au niveau des autorités pédagogiques, parce que, bon, elle se déplaçait, elle n'avait pas le droit, mais c'est incroyable ce que... Et elle a transmis jusqu'à son dernier souffle. Elle a collecté les témoignages. Pour elle, c'était quelque chose d'incontournable.
Comme toi, tu es en train de faire, et que tu vas continuer à faire, Marie-Jo. Est-ce qu'on est fiers d'être une Vittori?
Je vais le dire comme ça. Oui, je suis fière d'être une Vittori de cette famille-là. Et en Corse, j'ai beaucoup l'occasion de le rappeler. Quand je suis dans certaines manifestations, je leur dis, n'oubliez pas que je suis une Vittori de Pori.
Un immense merci à Marie-Josée Auger Vittori pour sa confiance. Salut.
Et fraternité.
All'albore tristezza e senza umanità, ugarrugli ubaria a porta dell'inferno. Chi smarito nero ogni segno bieto. Erano una ventina domi e ritratta di, a faccia mascherata tratti dal di là. Lasciavano sola un'idea d'età e un pensiero stanco all'occhi tribolati, quale sossi violi di debere che ridò. Ma nimusi frastorna e nimusi rivella, chi pesa tanto incorre a guerra sistemò. Sta troppo dando un atto libertà e si demme di noi la disgrazia da stella. Chi quella infamia dovermerà da imbintà. Eppur si zitelli gascono quella mane e colma fu così la morta assurdità. Chi le cose non fate a metà e che non si perdissi un gusto di un pane. Oggi è uguale sa più, oggi è uguale la so. Tenimo a menti fatti e tenimo li carri, quei morti dell'ombra e di libertà, quei violi astuti e roi calamari, ci scrisse una storia.